Vous êtes sur RTL.
Ensemble jusqu'à 14h, nous allons dialoguer si vous nous appelez dès maintenant au 3210. Alors, vous vous souvenez la question du jour aujourd'hui, faut-il rendre obligatoire le pass sanitaire au restaurant, puisqu'il pourrait en être question. On attend évidemment les annonces d'Emmanuel Macron ce soir. Bonjour Aurore, pour ou contre?
Bonjour Madame Rebien. Bah, écoutez, pour moi, de nouvelles restrictions sont nécessaires, mais l'extension du pass sanitaire est largement à nuancer.
Bon, ben, on y vient dans un instant, merci Aurore. Le rappel des titres donc, Emmanuel Macron face aux Français, allocution à 20h, le variant Delta a rattrapé nos traités, notre besoin de liberté et les réformes que souhaite faire le Président. Un conseil de défense sanitaire a lieu ce matin à l'Élysée pour valider certaines mesures et notamment une obligation vaccinale pour les soignants ou encore une extension du pass sanitaire. Le variant Delta est 40% plus contagieux. Prudence aussi pour le défilé du 14 juillet à Paris. Les spectateurs qui souhaiteront assister au défilé militaire devront être munis d'un pass sanitaire et porter un masque. Une jauge sera appliquée pour réguler les personnes le long de l'avenue des Champs-Élysées. Le système COVAX va recevoir 110 millions de doses de vaccins de la part de deux sociétés chinoises. COVAX, vous savez, c'est ce mécanisme de solidarité mis en place par l'Organisation mondiale de la santé pour que les pays pauvres aient accès aux vaccins. Seul 1% de leur population a été immunisée. La nuit a été courte pour les héros italiens. La journée sera longue avec leur retour triomphal. Ils sont champions d'Europe pour la première fois depuis 53 ans. À l'inverse, en Angleterre, la défaite tourne à la polémique après des insultes racistes contre trois joueurs qui ont raté leur tir au but. Boris Johnson les dénonce vivement et affirme que leurs responsables devraient avoir honte d'eux-mêmes. Pierre Ménès ne reviendra pas sur Canal+, mis sur la touche depuis fin mars après des accusations d'agression sexuelle. Le chroniqueur vedette du Canal Football Club a trouvé un accord financier avec la chaîne cryptée avec laquelle il collaborait depuis 12 ans.
Et les petites histoires olympiques, Jean-Michel Rascol sur RTL.
Cet été sur RTL, avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, nous allons vous mettre l'eau à la bouche avec des petites histoires olympiques. Aujourd'hui, celle de Colette Besson. En 1968, cette athlète inconnue signe l'une des plus belles épopées françaises de l'histoire des Jeux. Colette Besson, étoile du 400 mètres dans le stade de Mexico, devient, en un tour de piste, la petite fiancée des Français. Jean-Michel Rascol.
16 octobre 1968, la France cicatrise à peine de son printemps enflammé lorsqu'une athlète quasiment inconnue, Colette Besson, capte soudain toute l'attention. Daniel Herrero, qui deviendra un grand chevalier d'Ovalie, n'est encore qu'un simple étudiant, tout juste descendu des barricades. Il va se passionner comme des millions de Français pour la finale olympique du 400 mètres que la jeune femme aux généreuses couettes brunes va disputer à Mexico.
Je suis moi, mon meilleur ami, c'est Marcel Ruffaut, un psychiatre, mais il fait ses études comme moi. On est à Marseille en tant qu'étudiant. Je loue dans une petite ture dans l'ancienne, on loue une petite télévision en noir et blanc le matin de la finale olympique du 400 mètres. Colette Besson, elle est mignonne. Elle est mignonnette. Je l'observe pendant la course, tu vois, la nôtre. Oh, je ne sais pas pourquoi. Une espèce de percussion, d'éclat, comme ça. La dernière ligne droite qui s'annonce, elle n'est pas radicalement en tête, mais elle n'est pas trop en retard. Et alors, on la voit sortir comme une explosion de guerrière, tu vois, sacrificielle. On la voit une petite enfant de France, tu vois. Déjà, le dendoline, à mon sens, c'est le dendoline un peu du cap. Tu vois, on sent que l'affaire va devenir complexe. Tu vois, elle perd peut-être de l'allure générale. Mais il me semble que l'anglaise qui est à côté d'elle, elle est un peu dans ce... Et alors, c'est une... J'ai la sensation, mais non pas qu'elle sort du ciel, tu vois, qu'elle arrive dans la lumière comme ça, mais j'ai plutôt la sensation qu'elle sort de terre, quoi. Qu'elle sort de terre, comme si à cet instant-là, on s'est dit, il va y en avoir une de France qui peut nous amener quelque chose qu'on n'a jamais connu dans notre histoire, quelque chose qui ressemble à une guerrière de la gloire française.
Cinquième à la sortie du virage, première à l'arrivée, un souffle bleu, presque un moment de partage.
La grande image pour moi, c'est la rentrée dans la ligne droite en sortant de la terre de la nuit. Tu vois, comme si on ne sait pas d'où elle arrivait, comme ça. Mais il y a plus que la guibole qui tourne. Quand tu t'arraches le ventre et que c'est une joie pour les hommes, quoi, tu vois. Tu vois, quand tu te dis... Et que tu as la sensation qu'une partie de son bonheur à ce moment-là, c'est pour nous.
Non, je ne pensais pas à la gagner, mais enfin, après 300 mètres de course, je me suis dit, pourquoi pas, tu es très bien, continue, allez, et puis ça s'est passé comme ça.
Colette Besson devient la petite fiancée des Français. Elle s'éteindra le 9 août 2005, à seulement 59 ans. 80 stades portent aujourd'hui son nom, synonyme d'exploit et de persévérance.
Merci Jean-Michel Rascol pour ce portrait de Colette Besson.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole.
Avec Christelle Rebière.
Allez, cette fois, nous sommes bien ensemble jusqu'à 14h. Donc, autour de cette question, faut-il rendre obligatoire le pass sanitaire au restaurant ? On retrouve Aurore, avec qui on était il y a quelques minutes. Alors, Aurore, dites-nous.
Alors, bonjour déjà.
Rebonjour.
Je pense que le pass sanitaire n'a pas à être étendu au restaurant. Parce que je pense qu'il y a besoin de nouvelles restrictions, mais pourquoi pas plutôt un test salivaire, parce que ça sera moins, il y aura moins de restrictions en fait, et ça sera plus simple d'aller au restaurant, parce que sinon ça va beaucoup limiter, je pense, la clientèle, et les commerces n'ont pas besoin de ça, les restaurants qui ont déjà beaucoup souffert n'ont pas besoin de ça, et un test salivaire pour moi sera un bon compromis.
Oui, mais ils peuvent être sous la menace d'autres restrictions plus dures. Si on va vers une fermeture de nouveau des restaurants, ce serait terrible pour eux.
Je ne pense pas que ça arrivera à une fermeture si on applique cette mesure, puisque de toute façon, le test salivaire permettra de limiter le nombre de contaminations. Par rapport à d'autres restrictions, je pense que malheureusement, les boîtes de nuit ont réouvert au mauvais moment. Et je pense qu'il faudrait, les fermer ou renforcer les mesures. Je ne sais pas.
Mais vous avez une confiance absolue dans les tests salivaires, qui ne sont pas toujours fiables à 100%.
Voilà,
c'est ça, il y a quand même un petit angle mort. Hein.
Oui, bien sûr, mais justement, en fait, c'est trouver une sorte de compromis entre justement limiter trop le fait d'aller au restaurant et justement le fait de ne faire aucun test, etc. Pour moi, c'est un bon compromis, et étant le pass sanitaire, ça ne serait pas une bonne mesure maintenant.
Aurore, vous avez 18 ans, vous êtes étudiante à Sciences Po à Paris. Depuis la réouverture des terrasses le 19 mai, vous êtes beaucoup sortie. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Oui. Alors, je suis pas mal sortie, j'ai beaucoup profité de juin, parce que, en étant arrivée sur Paris en septembre, je n'ai vraiment pas pu profiter.
Été bien confinée, voilà. Là, ma pauvre.
C'est ça. Donc, il n'y a eu vraiment aucun avantage, quelque part, à être sur Paris.
Oui.
Donc c'est vrai que juin, je suis pas mal allée en terrasse, mais par exemple, je ne suis pas encore retournée en boîte. Voilà.
D'accord. Donc vous êtes quand même méfiante. Vos amis, que vous disent-ils ? Ils sont sur la même ligne que vous ?
La plupart, oui. Ils sont retournés en terrasse aussi. C'est vrai qu'on cherche à profiter. J'en connais certains qui sont angoissés quand même, par contre, à l'idée de ressortir, etc. Parce que on a effectivement cette peur de tomber malade. Mais la plupart sont prêts à ressortir. Et certains même en boîte de nuit, d'autres moins. C'est assez mitigé, je dirais.
Est-ce que vous êtes vaccinée, vous, déjà, Aurore ?
Alors, je suis primo-vaccinée. Je reçois ma deuxième dose dans une semaine et demie. Mais oui, c'était vraiment pour moi indispensable. Ne pas le faire, je ne voyais pas l'intérêt de ne pas le faire, en fait. On a tout à y gagner.
Oui, pour vous, il y avait même urgence à le faire, parce que vous êtes allée très vite, hein ?
Ah oui. Dès que ça a été ouvert, ça a été dur de trouver un créneau. Mais pour moi, c'était vraiment indispensable. Et je pense que les jeunes ont vraiment besoin d'aller se faire vacciner au moins.
Est-ce que vous en débattez avec vos amis et que vous disent-ils ?
Oui, alors on a l'habitude de débattre sur beaucoup de sujets, donc on a débattu beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un assez large consensus quand même autour de cette vaccination. Il y en a très peu qui sont pour la vaccination obligatoire, pour toute la population française, je veux dire.
Vous en pensez quoi ?
Moi, je suis pas pour. Pour toute la population, je trouve que c'est vraiment ça limiterait trop les libertés individuelles, franchement. Je pense que pour certaines professions, tout ce qui est au niveau infirmier, au niveau sanitaire, pour moi c'est indispensable. Mais après, pour le reste de la population, je ne suis absolument pas pour.
Il est question aussi de l'élargir, cette vaccination, de la rendre obligatoire, pas seulement pour les soignants, mais aussi pour toutes les personnes qui travaillent en contact avec le public, jusqu'aux caissières de supermarché par exemple. Est-ce que vous y êtes favorable à ça?
Obligatoire, non.
Le problème, c'est l'obligation. C'est-à-dire qu'il vaut mieux convaincre que contraindre.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est tout simplement, il faudrait davantage faire la promotion peut-être lutter contre les fake news qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, etc., pour justement essayer de que tout le monde aille se faire vacciner. Mais l'obligation, pour moi, c'est pas possible pour tout le monde.
Mais pour les soignants, vous nous dites oui.
Oui, pour moi, oui. À partir du moment où on travaille dans le milieu sanitaire, hospitalier, etc., pour moi, ça me semble indispensable.
D'accord. Ben, restez avec nous, Aurore, parce que je vous présente Sandrine, qui est infirmière libérale. Ah, on va faire une petite pause de pub, voilà. Si j'ai bien compris, j'entends le petit jingle. Donc, dans un instant, j'aimerais bien que vous puissiez dialoguer, Aurore et Sandrine, puisque Sandrine, elle est infirmière et elle est contre la vaccination. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle.
Jusqu'à 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière.
L'indispensable Laurent Tessier qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Laurent.
Vous démarrez bien. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron ce soir? Le chef de l'État prendra la parole à 20h pour présenter des mesures contre le variant Delta. C'est le sujet qui vous fait réagir au 3210. Médecins, infirmiers, aides-soignants, êtes-vous favorable à l'obligation vaccinale dans votre milieu? Écoutez l'avis du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, invité de RTL ce matin.
On n'est pas contre la vaccination, vous l'avez compris. On est pour la vaccination. Sauf que d'obliger les gens, c'est pas la bonne solution, c'est ce qu'on dit. Et notamment le personnel soignant. Il faut d'abord, et c'est ce que j'ai dit au président de la République la semaine dernière, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi les gens les plus impliqués dans la lutte contre la Covid ont des réticences. Et il y a plusieurs explications et donc il faut plutôt discuter que contraindre.
Faut-il étendre aussi le pass sanitaire, le rendre obligatoire, notamment au restaurant? Stéphane Manigold, porte-parole du collectif Restons Ouverts, ne veut pas en entendre parler. Il était votre invité, Christelle, dans RTL Midi.
Le vrai succès de cette sortie de crise, c'est la vaccination. C'est pas le pass sanitaire. Pourquoi? Parce que celui qui veut aller à l'hôtel, s'il a le pass sanitaire obligatoire, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Airbnb, il loue une maison, il invite ses potes, ils sont plus de 200, et il n'a pas besoin de pass sanitaire pour faire cela. Je dis juste que le pass sanitaire, ça doit être, au fond, le dernier recours.
Alors, qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron ce soir? Elisabeth, sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole, se dit favorable au pass sanitaire pour les restaurants, les cafés. Ne stigmatisons pas les soignants, demande Kevin sur nos réseaux sociaux. On les a applaudis hier, envoyés au front, et aujourd'hui on les pointe du doigt. Et qu'il soit ferme, Emmanuel Macron, concret et direct, souhaite Thierry, qu'il arrête de nous parler comme à des lapins de 6 semaines. C'est le chef du pays, qu'il se condise de cette façon.
Bon, on attend les annonces, hein. Ce sera à 20h pile, les annonces d'Emmanuel Macron, allocution très solennelle à 20h, on n'en sortira décidément pas. Bonjour Sandrine, rebonjour.
Bonjour, voilà. Oui, rebonjour.
Rebonjour, et Aurore est toujours avec nous. Alors, vous êtes infirmière libérale du côté de Grenoble.
Oui, c'est ça.
Et vous, alors, la vaccination obligatoire des soignants, c'est pas possible?
Voilà, je précise, je suis vaccinée depuis fin janvier, parce que je suis une soignante de plus de 50 ans, donc je me suis fait vacciner. Le problème, c'est que tout est fait en dépit du bon sens. Je ne suis pas pour la vaccination obligatoire des soignants, parce qu'en fait, on crée en fait une bataille entre la population, c'est-à-dire les soignants sont des méchants maintenant, alors que on est parti au front. Moi, je peux vous dire, j'ai pas travaillé à l'hôpital en libéral. On s'est débrouillé pour trouver du matériel, des masques. On a bossé, mais comme des malades, parce que les gens n'allaient plus dans les laboratoires. Et le seul remerciement qu'on en a maintenant, c'est que la maladie vient de nous. Alors, je vais vous dire, je suis partie 2 jours en Italie. Je suis partie avec des amis. Je suis vaccinée, donc j'avais pas besoin de faire un test PCR. Mes collègues en ont fait. On n'a eu aucun contrôle à la frontière, ni à l'aller, ni au retour. Donc, on m'explique. Ou on fait les choses correctement, c'est-à-dire on lâche les vannes et tout le monde fait ce qu'il a envie. Parce que de toute façon, il ne faut pas rêver. Sur les quais de Grenoble hier soir, avec la victoire des Italiens, il n'y avait aucun masque, aucun geste barrière. Tout le monde était les uns contre les autres. Et maintenant, on vient nous dire qu'il faut absolument que les soignants soient vaccinés, que ça va être obligatoire.
Mais ils ont quand même un vrai fossé. Mais en même temps, vous êtes très responsable, Sandrine. Vous dites, moi, je me suis fait vacciner. Mais vous êtes bien consciente, vous avez une responsabilité particulière en tant que soignant.
Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que quand je l'ai fait en janvier, les gens respectaient encore les gestes barrières et ils étaient capables de dire, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire là. Là, depuis le mois de mai, il y a un relâchement, donc tout est autorisé, tout. Donc en fait, il n'y a plus aucune limite. Et ce que n'ont pas compris les gens, c'est que le vaccin, ça ne vous empêche pas d'attraper la maladie et ça ne vous empêche pas de le transmettre aux autres.
Ça, c'est vrai, c'est extrêmement important. Vous avez raison, Sandrine, ça ne nous empêche pas, mais ça nous protège des formes graves de la maladie et la transmission, elle est bien moindre avec le vaccin.
Les chiffres
chiffres qui sont donnés et qu'on veut bien nous donner, parce que regardez bien en Israël, où il y a un pourcentage de population qui est vaccinée, il y a quand même des gens qui finissent en réa.
Oui, mais il y en a
donc,
très peu.
Ce qu'il faut expliquer, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce vaccin, ça va être comme le vaccin de la grippe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il y aura des variants, il y aura des souches différentes, et que celui que vous avez, moi, je me suis fait vacciner en janvier, je ne suis pas sûre, du coup, de ne pas attraper le variant Delta. On est bien d'accord.
Sauf que alors, par rapport à la grippe, c'est un peu plus grave qu'une grippe, quoi.
Alors, c'est un peu plus grave qu'une grippe, sauf qu'on a oublié que les personnes âgées, elles décèdent aussi énormément avec la grippe. Et il y a un moment, il va falloir comprendre quand même que nous sommes trop sur la Terre et que des pandémies et des épidémies, il y en a eu dans tous les siècles. Le problème, c'est que le corps médical veut absolument nous maintenir le plus longtemps possible en vie. Et moi, en tant qu'infirmière libérale, je peux vous dire que des personnes âgées, j'en ai de plus de 90 ans. Et je peux vous dire qu'elles, tous les jours, celles qui souffrent, elles me disent « Mais quand est-ce que je m'en vais ? Quand est-ce que je m'en vais ?» Donc, il y a un moment... C'est comme ça, on fait partie de la nature. Et moi, je peux vous dire que les personnes âgées, elles sont beaucoup plus philosophes et plus intelligentes que nous. Elles nous disent, on fait partie de la nature, il faut respecter la nature. Quand on doit partir, on doit partir. Donc, on est trop sur la Terre, et ben, les faibles, ils s'en vont et les forts, ils restent. Je suis désolée, ça peut peut-être choquer les gens, mais le corps médical...
Mais j'ai envie d'entendre Aurore là-dessus, qui est étudiante à Sciences Po. Je sens que vous piaffez d'impatience, Aurore.
Alors, oui, j'aimerais bien rebondir là-dessus puisque je trouve que cette théorie est quand même un petit peu extrême. C'est-à-dire que là, vous parlez strictement des personnes âgées, mais le Covid ne touche pas que les personnes âgées. Or, en tenant ce raisonnement, vous dites que clairement, si on est faible en général, bah tant pis, voilà, c'est comme ça.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'avant de nous gonfler, nous, les soignants, pour nous faire vacciner, il faut d'abord vacciner les gens qui sont aussi faibles. Et là, on ne leur laisse pas le choix.
Mais madame, c'est déjà fait.
Non, c'est pas fait. Ah non, non. Vous vous trompez, je suis dans le milieu. Je peux vous dire que des gens qui ont des pathologies de morbidité ne sont pas tous vaccinés. Alors, arrêtons de dire que...
Non, mais ça je suis tout à fait d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Dans ces cas-là, il faut effectivement faire vacciner aussi les personnes qui ont des forts risques. Et vous êtes bien d'accord que là, vous êtes au contact, au premier, avec les patients. Pour moi, ça me semble indispensable. Vous êtes en première ligne et je ne suis pas du tout en train de stigmatiser.
Je finis. On a fait les trois vagues, nous. Trois vagues. On est trois dans notre cabinet, on ne l'a pas chopé. Et pourtant, je peux vous dire qu'en mars, on en a eu des patients qui avaient le Covid et on n'avait aucun matériel. On s'est démerdé toute seule. On ne l'a pas chopé. Donc, ça veut bien dire que quand on fait les gestes barrières...
Plus contagieux, ce variant-là, Sandrine, si je puis me permettre. 40% plus contagieux, ce n'est pas tout à fait pareil.
Je suis d'accord avec vous, sauf qu'il faut arrêter de stigmatiser les soignants, parce que je vous dis...
Je ne suis absolument pas en train de vous stigmatiser. Au contraire, je pense que sincèrement, vous avez fait un travail formidable et vous le faites tous les jours. Je suis simplement en train de vous dire que ça me semble indispensable pour continuer à faire aussi bien votre travail au quotidien, de vous faire vacciner. Et je ne suis pas du tout en train de dire que vous êtes les responsables de l'épidémie en ce moment. Je ne suis pas du tout en train de vous dire ça. Vous êtes en première ligne et je pense que c'est vraiment important.
On est en première ligne depuis plus d'un an. Et donc,
vous ne pouvez pas vous en remettre au hasard, madame, en disant que...
C'est vous qui confondez le hasard. On n'a pas de hasard. Le problème, c'est que quand les gens font attention... Quand on prend toutes les précautions, on y arrive.
Non.
Le problème, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Ça fait 30 ans, 35 ans que j'ai mon DE et ça fait un an et demi qu'on est dedans. Donc moi, je peux vous dire que des tests PCR avant Noël, j'en faisais quelquefois 18 dans l'après-midi pour que les gens puissent aller fêter Noël ensemble. Sauf que quand ils sont arrivés en famille, les gestes barrières et les trucs, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le test PCR, il est négatif à l'instant T où on le fait. Sauf que vous allez faire vos courses, vous rencontrez quelqu'un qui vous le chope, c'est terminé. Donc en fait, comment voulez-vous qu'on lutte contre un variant qui, comme vous dites, est plus contagieux que les autres, alors que les gens ne respectent plus des jeunes qui décèdent de la grippe, on en a aussi. Des jeunes qui décèdent d'un tas de maladies contagieuses, on en a. Alors, je peux vous dire que dire que c'est les plus faibles qui s'en vont et que je suis dégueulasse, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, Sandrine.
Je ne
veux pas stigmatiser les soignants. Mais on essaie de comprendre. Voilà, on essaie de comprendre tous ensemble. En tout cas, merci d'avoir échangé, Aurore et Sandrine. C'était un dialogue un petit peu musclé.
Merci. Je suis désolée, mais...
ne soyez pas désolée. Au contraire, vous avez raison de dire ce que vous pensez. Soyez surtout pas désolée. On ne va pas vous mettre d'accord.
On est épuisé. Ma fille, elle est en réa dans un hôpital à Bourgoin. Ils sont épuisés. Je voudrais juste dire, voilà, les soignants, on leur demande ça, mais ma fille qui est jeune, qui a 29 ans, ça fait depuis un an qu'elle travaille en réa à Bourgoin. Mmh. Et là, on leur demande de faire des jours, parce que les collègues, elles n'ont pas pu prendre leurs vacances depuis le début du Covid. Ce qui fait qu'elle se retrouve à faire des jours dans l'illégalité, je le dis bien, dans l'illégalité, parce que il n'y a pas de personnel. Et je peux vous dire que sur Grenoble, il y a des hôpitaux, comme au CHU, il y a 15% de démission des soignants depuis le début de l'année. 15%
et on y viendra, parce qu'effectivement, il y a une démission, mais même dans les EHPAD, il y a une déferlante là en ce moment. On y reviendra, ce sera l'objet d'une de nos prochaines émissions. Je pense qu'on en parlera dans la semaine d'ailleurs. Aurore, un dernier mot pour finir?
Écoutez, je n'ai rien contre vous, Sandrine, et surtout, je n'ai absolument pas cherché à stigmatiser les soignants. Merci encore pour leur travail.
Merci à vous deux. On fait une petite pause. On poursuit ce débat avec Paul et avec Dominique.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Century21.fr.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Et Laurent Tessier. Il y a un autre sujet qui vous intéresse, Laurent, aujourd'hui.
Oui, qui vous fait réagir sur la page Facebook de l'émission. Samedi, lors de la conférence de presse du film La Fracture, pendant le Festival de Cannes, qui parle du mouvement des Gilets jaunes, l'acteur Pio Marmaille a tenu ses propos contre Emmanuel Macron.
Comment on essaie de s'accrocher au réel quand on est poussé dans un endroit de fragilité totale. Enfin, alors en l'occurrence, et encore une fois, Macron, j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment, mais un peu comme tout le monde, dans l'absolu. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, comment est-ce qu'on raconte cette révolte, quoi, qu'elle passe par la langue ou par l'acte de violence, ou par quelque chose, mais moi c'est ce que j'ai essayé de raconter.
Une sortie qui a fait polémique. Christophe Castaner, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, a dénoncé un appel à la violence. Vous remportez la palme du propos le plus vulgaire. Et vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, il dit ses propos dans un certain contexte, rappelle Jeanne sur la page Facebook RTL Les Ouïtans à la parole. Il joue un chauffeur routier gilet jaune dans le film et c'est maladroit tout de même de la sortir. C'est une réplique de son personnage, lance Marion, une polémique qui n'est pas utile. Milly se dit tout de même très choqué par les propos, le vocabulaire utilisé. Le cinéma, c'est du rêve, du glamour. Pourquoi gâcher tout ça, demande Maryse. Et pour Jean-Luc, des paroles sorties juste pour faire le buzz. Des avis que ne partage pas Nelly sur nos réseaux sociaux. Cet acteur dit tout haut ce que les Français pensent tout bas.
En tout cas, ce serait une réplique sortie directement du film. Ça, c'est intéressant. Ça change un petit peu la donne. Merci de nous avoir. Et que ça dégonfle un peu, oui. Merci de nous avoir éclairé. Vous pouvez effectivement réagir si vous le souhaitez. Pour l'instant, on est toujours sur l'hypothèse d'une vaccination obligatoire pour les soignants. Bonjour Paul.
Bonjour Christelle.
Et bienvenue, vous êtes chef d'entreprise dans le Var.
Oui.
Alors, ça vous agace cette histoire?
Ça m'agace un peu, mais je voudrais dire une chose, je suis tout à fait d'accord avec votre première auditrice, Sandrine. Parce qu'il y a quelque chose qui est aberrant. Oui. Il y a quelque chose qui est aberrant, c'est qu'on veut lutter contre la nature, on veut lutter toujours. Je vais vous dire, moi j'ai travaillé en Afrique noire où il y avait le virus Ebola. J'étais au Moyen-Orient en Israël quand il y a eu l'épidémie de choléra en 73. J'étais en Inde quand il y a eu... je vais vous dire, j'ai jamais rien attrapé. Là, je me suis fait vacciner parce que je dois partir encore sur le Moyen-Orient, mais je trouve ça aberrant qu'on oblige les gens à se faire vacciner. Tout. On doit, et comme l'a dit votre infirmière, on est là sur un passage sur Terre, on doit à un moment donné partir, qu'on le veuille ou
et
pas.
Et ça veut dire que vous seriez prêt à mourir du Covid? Vous êtes vacciné, mais dans l'absolu, si je suis votre raisonnement jusqu'au bout...
Je me suis fait vacciner il y a un mois, mais je vous signale que depuis le Covid, j'ai jamais été confiné. J'ai jamais été confiné parce que j'ai toujours continué à travailler. Et comme l'a dit votre infirmière, moi je suis monté en Belgique, j'ai passé les frontières, il y a juste contrôle, il n'y a jamais rien eu. Et j'ai fréquenté tout mon personnel, j'ai fréquenté des clients qui avaient le Covid, et je n'ai rien attrapé. Alors arrêtons. Et
on peut dire aussi, on peut considérer que vous êtes un miraculé aussi, c'est possible.
Mais non, pas un miraculé, je vais vous dire.
C'est contagieux quand même.
J'ai un cousin qui est docteur en immunologie. Vous savez, quand on doit attraper un virus, le paradoxe c'est qu'on veut lutter contre des virus. Là, on commence à dire il y a le variant Delta, il y a le variant Intel. Mais on est testé depuis un an seulement. Alors, je vais vous dire honnêtement, si on avait testé peut-être il y a 4 ans ou 5 ans, on aurait trouvé toujours des virus dans notre corps. Parce qu'on en aspire, on en expire constamment. Et ça, on ne le dit pas aux gens. Par contre, ce qu'il faut, vous savez, quand moi je suis né, j'ai fait le calcul l'autre fois, on était 2 milliards 900 millions sur Terre. À l'heure actuelle, on est presque 8 milliards. Faites le calcul, c'est tout. Et il faut être réaliste un petit peu. Les virus, on ne peut pas lutter contre la nature. Et à chaque fois qu'on essaye de lutter contre elle, elle revient.
Les vaccins, ils servent quand même à quelque chose, Paul. On est quand même content de savoir qu'il n'y a plus la polio ou qu'il n'y a plus la variole dans nos pays.
Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, ceux qui veulent se faire vacciner, qui ne veulent pas attraper ça, mais c'est très bien. Si ça se trouve, vous savez, les vaccins qu'on a eus quand on était tout petit nous protègent encore de peut-être certains virus maintenant. On n'en sait strictement rien. Et comme disaient certains médecins, ils disent, vous savez, on connaît la médecine, on connaît 30%. 70%, on ne sait pas. Il faut être réaliste. Il ne faut pas être orgueilleux en disant, on va faire ça. Non, il faut être réaliste. Maintenant, on dit bien aux gens, se faire vacciner, c'est très utile, parce que ça peut vous protéger et tout. Et il y a des gens qui sont vaccinés, malheureusement, qui décèdent aussi. Hein, donc, on peut pas, c'est pas le béaba, la vaccination. On laisse le choix après. S'ils veulent se faire vacciner, ils se font vacciner.
Je sens bien que vous êtes assez fataliste, en tout cas. Merci, Paul, pardon de vous interrompre. On va faire une petite pause et puis on va poursuivre cette conversation avec Dominique, qui est infirmier, dans un instant.
Les auditeurs ont la parole.
Santé, attention à l'abus d'alcool.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Et Dominique, qui nous appelle de Fontainebleau, qui est infirmier. Bonjour, Dominique.
Oui, bonjour à vous.
Alors, de nouvelles restrictions, oui, non ?
Oui, c'est simplement une évidence. Moi, je ne suis pas un anti-vax, bien au contraire. Néanmoins, un professionnel de santé, à l'heure actuelle, il est hors de question que je me fasse vacciner. Je pense qu'il est bien plus important pour la population générale, globale, de renforcer les mesures de prévention, l'accès aux différents tests de dépistage. Et Sandrine a été particulièrement claire là-dessus. Ça ne sert à rien de faire un test lundi. Et puis, mercredi, on va au feu d'artifice. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Mais ce que je veux dire.
C'est un comportement individuel, vous voulez dire ? C'est plutôt ça ? Il faut en appeler à une responsabilité individuelle. C'est toujours l'histoire de la contrainte. C'est convaincre ou contraindre. Hein.
D'autant plus que, malheureusement, l'actualité pense nous donne raison, c'est complètement contre-productif ce martelage de la vaccination. On ne parle plus que de la vaccination, on ne parle plus des mesures préventives. Alors, ce qui soigne, c'est entre guillemets, parce qu'il soigne, mais ce qui évite de tomber malade, jusqu'à preuve du contraire, les mesures préventives et pas le vaccin. Le vaccin ne vous empêche pas d'être malade. De toute façon, si vous êtes vacciné, vous pouvez attraper le Covid.
Oui, mais à bas bruit, j'allais dire. C'est-à-dire, on ne fera pas de forme grave du Covid. C'est quand même l'essentiel. Or, le but, c'est aussi de sauver l'hôpital, hein, dans cette histoire.
Non, je pense, mais comme dit, je ne suis pas non plus complotiste. Et Sandrine l'a également souligné. Je tiens à la saluer. On en parlait ce matin, 34 nouveaux cas sur 100 000 habitants.
Oui.
Okay. Donc, 34, et je ne parle pas de 34 cas en réanimation.
Non, c'est 34 cas, c'est le taux d'incidence effectivement du moment. Bon, 34 pour 100 000 habitants.
Je ne parle pas de 34 personnes qui éventuellement finissent avec un peu d'oxygène à l'hôpital. C'est 34 cas pour 100 000 habitants.
Oui.
C'est-à-dire 0,034%. Vous, les vaccins, enfin, je parle de vous, on s'entend.
Oui,
vacciner 100 000 personnes pour 0,034%.
Oui, mais on sait bien que ça redémarre. Dominique, vous savez bien qu'après, avec ce variant qui a l'air d'être extrêmement contagieux, ça peut redémarrer très vite. D'autant qu'on est tous dehors et qu'on oublie tous les gestes barrières en ce moment.
Aussi contagieux que toute autre forme de virus, voire peut-être plus, et qui paradoxalement est beaucoup moins virulent que la première vague. Vous voulez vacciner avec un vaccin qui marche beaucoup moins bien sur le Delta que sur l'autre variant, d'accord ?
Qui est moins virulent ? Non, mais pour l'instant, il a l'air de fonctionner sur le variant Delta, hein, le vaccin.
Bon, il est quand même beaucoup moins sensible.
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que, d'après ce que les spécialistes nous disent, il marche quand même. Hein,
ouais. Mais je pense que...
Mais dites-moi au fond de vous, Dominique, pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner ? Alors que vous êtes au contact des patients tout le temps.
Pour plusieurs raisons. Les deux raisons principales. La première, je pense que en tant que soignant et infirmier, je ne suis pas du tout médecin, virologue. Voilà, c'est faut mettre le curseur au niveau et rester honnête et humble. Je préconise largement plus des mesures sanitaires appliquées de façon beaucoup plus ferme. Et je pense qu'honnêtement, ça sera l'une des voies du message de ce soir. Et j'en suis ravi. Renforcement des mesures sanitaires et donner les moyens aux gens de se protéger plus avec des masques, les tests, mais juste faire un test le lundi et aller au feu d'artifice le mercredi, il y a un truc qui va pas. La sécurité sociale, les gens vous rappellent, on est en plein dedans, hein, je peux vous dire, mon beau-fils, voilà. Donc, on est en plein dedans, on connaît le système. Laissez les gens de la sécurité sociale vous rappellent. Et c'est excellent, c'est très très bien le suivi. Et vous pouvez répondre... De n'importe où. C'est ça qui n'est pas normal. Si on vous dit de rester à la maison, c'est à la maison avec un contrôle à la maison.
Dites-moi, Dominique, si jamais ce soir Emmanuel Macron décrète la vaccination obligatoire pour les soignants, qu'est-ce que vous faites ?
Je refuserais. Dans la mesure du possible et des moyens légaux.
Vous êtes en libéral ou pas, Dominique ?
Non, je suis fonction publique.
Donc vous risquez d'être, je ne sais pas hein, ce qui va être décidé,
oui,
imaginons
oui.
que potentiellement on décide de mettre des soignants comme vous un peu à l'écart.
À l'heure actuelle, légalement, sauf de ce qui sera annoncé ce soir et les textes de loi qui vont sortir.
C'est ça, il y aura une nouvelle loi.
À l'heure actuelle, on ne peut pas être vacciné sous contrainte. Donc
mais vous,
pour le moment, non.
Dominique, il y a déjà 3 vaccins qui sont obligatoires pour les soignants.
Oui.
Vous les avez fait ces 3-là.
Oui, tout à fait.
Pourquoi vous ne voulez pas faire celui-là ?
Parce que ça, les pathologies, les risques sanitaires, les conséquences sur la santé, à la fois la mienne individuelle et pour celle de mes proches et pour la société, ne sont absolument pas les mêmes. Là, je suis d'accord et c'était Paul.
Mais les conséquences sur la santé, il y en a très peu. Enfin, ces vaccins, ils ont l'air très sûrs. On n'entend pas parler tous les jours de cas graves.
Non, des maladies contre lesquelles on se fait vacciner.
D'accord.
Ce sont des maladies, entendez, aux conséquences gravissimes. Mm-hmm. Je ne dis pas que le Covid n'est pas gravissime. Néanmoins, et Paul l'a très bien souligné, les conséquences du Covid, et j'étais en renfort en réanimation l'année dernière, donc je l'ai vu, je suis désolé, ce sont des gens qui avaient malheureusement une espérance de vie très limitée. La vie est ainsi faite. Ce sont des gens qui avaient des comorbidités qui, de toute façon, allaient les amener à partir rapidement. Ils n'étaient pas armés pour lutter contre cette épidémie.
Vous êtes fataliste, voilà. Merci beaucoup, merci Dominique d'avoir exposé votre point de vue longuement sur RTL. Merci de nous avoir appelés. On fait une petite pause, dans un instant on va quand même se concentrer un peu sur les vacances aussi, parce qu'il nous faut des sujets légers, ça nous fait du bien. Et on va parler des camping-cars. Je sais qu'il y a des tas de gens qui adorent ça. Ils vont nous expliquer pourquoi ils aiment ce vent de liberté, voyager de cette manière. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Carrefour.fr.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Et Laurent Tessier. Laurent.
Après l'Eurovision, un nouveau sacre pour l'Italie, championne d'Europe de football. Notre réalisateur Greg Caradoni est ravi. Un second titre européen après un demi-siècle d'une longue attente. Une victoire au tir au but à Londres face aux Anglais. Vous êtes italien, vous vivez en France. Comment avez-vous vécu cette folle rencontre 32-10. Et puis Christelle, quelle est pour vous la meilleure chanson de l'été? Alors je sais qu'au standard, Olivier danse tous les week-ends là-dessus. Et si vous avez envie de voyager... Notre réalisateur Greg Caradoni bouge magnifiquement bien son corps. Enfin, c'est la légende sur cette chanson.
Il ne bouge pas tellement son corps.
Et la chanson qui me fait danser au camping à Valras. Quel est le tube qui vous fait bouger dans votre salle de bain en vous brossant les dents? Racontez-nous aussi votre meilleur souvenir de vacances, la découverte d'une région, un voyage dans un pays, des rencontres inattendues. Par exemple, moi, ma première petite amie quand j'avais 15 ans. Pascaline, si tu m'écoutes.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai. Valras.
Ah oui, et qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Oh bah non, nous, regardez pas, on sait jamais si madame écoute.
Votre femme vous écoute aussi,
si,
Laurent.
Si l'officiel écoute, on va avoir des problèmes.
Voilà, Myriam, si, si tu écoutes Laurent, c'est maintenant.
Non, non, retourne travailler.
Bon, bah moi, j'aimerais bien, Greg, que tu me cales Clara Luciani pour tout
le reste.
Oui, le reste, pour respirer encore, parce que ça va être les
respire
deux
encore
de l'été. Ouais.
Pas de problème.
J'aime bien, à tout à l'heure. Et alors, donc, François nous appelle. Bonjour, François.
Ben bonjour, et puis quel plaisir d'entendre une voix féminine à la radio,
ah,
à la
merci.
Place de Pascal Pro, tant pis pour lui, il n'a pas partir en vacances.
Exactement, voilà. Les absents ont toujours tort.
Et
puis moi je suis
tort.
Bien contente de vous retrouver parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait cet exercice. Alors donc vous François, vous aimez bien les camping-cars, vous voyagez souvent en camping-car?
Alors moi j'aime les camping-cars et je n'ai pas de camping-car. C'est ça qui est la particularité, c'est-à-dire que je... Hier, de ce sujet, avec un ami qui a un camping-car, et lui, a la même mentalité que moi, c'est-à-dire que pour lui, le camping-car, c'est l'évasion, c'est la possibilité de partir. Et en cet été, pourri un petit peu au niveau météo,
Pardonnez-moi, François, la liaison est extrêmement mauvaise. Donc, on va vous rappeler tout de suite. Hein, voilà, raccrochez, on va vous rappeler, parce que là, on ne peut pas poursuivre la conversation de cette manière-là. On va prendre Nicolas. Bonjour, Nicolas.
Oui, bonjour.
En fait, vous avez une solution pour François?
Oui, la location.
Ben oui, la location, mais alors, c'est incroyable. On en loue énormément, c'est devenu très à la mode.
Ouais, alors vous avez deux. Oui, c'est venu à la mode. Alors nous, c'est un peu le hasard parce qu'on avait entamé ça l'année dernière avant que ça devienne à la mode justement. Mais après, vous avez deux types de locations et c'est bien bien distinct. Vous avez la location entre particuliers et la location. Il y a des sites internet spécialisés pour ça et la location auprès d'un professionnel qui va vous apporter un certain service, un SAV. Enfin voilà. Après, il y a tout ça. Après, c'est le discours commercial. Mais voilà, c'est vous avez et les pros et les particuliers. Donc après, c'est à la demande de chacun, au budget de chacun. Voilà, après c'est vrai que ça le vend en poupe à l'heure actuelle. Donc c'est
Exemple, moi si je veux louer, c'est quoi la différence entre un van et un camping-car aujourd'hui d'abord? Reprenons les fondamentaux.
Alors déjà une histoire, alors oui, tout à fait, une histoire de dimension essentiellement, puisque le van c'est à la base un petit fourgon qui a été aménagé.
Ouais.
Alors vous avez le van qui fait 2 mètres de haut à peu près, qui permet de passer voilà au bord des plages, surtout sous les portiques qui font dans les 2 mètres de haut, donc ça vous permet de passer en dessous, puisque maintenant c'était ça que je voulais dire aussi, c'est que il y en a de plus en plus, c'est bien, ça fait des années, ça fait déjà quelques années également qu'on pratique. On a créé une société justement parce qu'on était là-dedans, mais il y a beaucoup de restrictions suite aux abus qu'il y a eu, puisque les gens ont fait beaucoup de choses, tout et n'importe quoi. Donc maintenant, les zones interdites sont de plus en plus nombreuses.
Ben oui.
Et moi, c'était ça que je voulais dire, c'est que c'est bien, mais faut que tant que les gens seront responsables et que ça soit pour le stationnement, l'environnement, tout ce que vous voulez, on nous embêtera pas trop. Sauf que voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Vous avez beaucoup d'interdictions la nuit maintenant. J'ai déjà eu des amendes à cause de ça, c'est-à-dire du stationnement.
Oui, puis on peut vraiment pas stationner n'importe où. C'est quand même compliqué. Donc la différence entre le van et le camping-car, c'est la taille, c'est ça?
C'est la dimension, c'est ça. Les vans fourgons aménagés, vous êtes sur du véhicule qui va faire 2 mètres de large à peu près. Les camping-cars vont faire 2,30 si vous voulez. Donc vous voyez au niveau de dimension.
D'accord. Donc un van, c'est un truc de surfeur.
Non, parce que justement, nous on a un van en location entre autres et des fourgons.
Ouais.
Et le van, non, vous avez des personnes qui ont une cinquantaine d'années, qui voilà, moi c'est un couple qui souhaite partir faire les gorges de l'Ardèche en moto, donc ils vont accrocher leur moto derrière le van et vont partir pendant une semaine ensemble, voilà, sans les enfants. Bon, ils en profitent. Mais non, c'est une histoire de dimension, d'accès. Du coup, ça se conduit comme une bagnole à peu près. Hein. Les camping-cars sont plus gros, les gens sont plus exigeants là-dessus puisque bah ils ont qu'une prouille en fait, c'est de faire de la casse quoi. Malheureusement, voilà, on a beau avoir les yeux partout, c'est pas simple. Donc le van est plus petit, passe partout.
On peut se garer n'importe où, on peut stationner n'importe où avec un van aujourd'hui?
Avec un van quasiment, puisque vous êtes à peine plus gros qu'une voiture en fait. C'est ça l'idée, c'est que vous arrivez à stationner sur un parking, même un parking de supermarché, vous garez. En fait, c'est un fourgon d'un artisan qui a été aménagé quoi.
Donc on retrouve en fait l'esprit de liberté originel.
Du van des années 50-60 de chez Volkswagen,
le fameux combi.
Non, mais le fameux combi à la base c'est ça, hein. Et du coup c'est resté un peu dans l'esprit. Après c'est vrai que le camping-car est plus gros, moins accueillant, enfin moins bien accueilli en tout cas par les gens lorsqu'on se déplace dans les
petit village, ça prend de la place. Alors il y a beaucoup d'aires de service de camping-car qui ont été mises en place et c'est très bien. Faut que les gens s'en servent et s'en servent correctement parce que c'est toujours pareil. Vous avez un endroit pour vider tout ce que vous visez ou autre, c'est très bien. Si vous mettez à côté, c'est moins bien quoi. Mmh. Donc malheureusement,
donc, là, voilà, aujourd'hui vous louez des vannes, vous Nicolas.
C'est ça.
Tout par à exemple, j'en veux un pour 15 jours, ça va me coûter combien?
Alors actuellement, alors moi ça s'appelle partonzen.fr, partonzen, P-R-T-O-N-S tout simplement, zen.fr, basé en Bretagne, là, Nord-Bretagne, du côté de Guingamp. Oui. Et actuellement on facture à la journée en fait, donc c'est un package. Alors c'est vrai que c'est les périodes de vacances scolaires, donc on est plus sur des semaines parce que les gens partent par habitude à la semaine. Oui. Mais actuellement on est autour des 142 € la journée, vous voyez, tout compris, SAV, assurance, mais voilà. Et avec ça, c'est pas mal. Et avec ça, vous pouvez partir sur 200 km par jour. Donc ça vous laisse, voilà, avec un petit peu d'options parce qu'on est toujours obligé de limiter un peu l'usage, c'est-à-dire vous avez le kilométrage limité en options, vous avez tout ce qui est la literie par exemple, on peut proposer avec couette, oreiller, voilà, mais tout ça, ça se paye un petit peu, ce qui est normal puisque nous derrière c'est du boulot pour remettre tout ça en ligne. Mais voilà, vous pouvez, quelqu'un qui va louer sur une semaine, vous faites 1400 km, il vous reste le gasoil à votre charge, mais tout le reste est compris puisqu'on est un professionnel, bien entendu. Donc nous, on a déjà une assurance pro, on a déjà le SAV, on a le dépannage 24-24.
Restez avec nous, on va retrouver François. Rebonjour François.
Rebonjour Christelle.
C'est pas une solution idéale qu'on vous offre, ça?
Ah, c'est une solution formidable, mais tout à l'heure, vous aviez du mal à m'avoir en communication, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas de camping-car, parce que je suis obligé de garder mon fixe, et j'ai pas de fil assez long.
Ah.
Voilà, c'est ça.
Mais non, partez, moi je vous suggère quand même de partir en vacances, et puis oubliez-nous, vous voyez, c'est pas très grave.
Non, il faut surtout pas oublier RTL, mais la formule qui est proposée, que j'écoutais tout à l'heure, est intéressante pour les gens, justement, oui, qui veulent faire des petits déplacements rapides, et rester en France. C'est sympa parce qu'en fin de compte, il y a tellement de choses à voir dans notre pays. On s'imagine même pas tout ce qu'on peut voir. La Bretagne, pas en particulier, mais il y a d'autres régions. Vous avez la Dordogne, parce que j'ai pas de camping-car, mais je voyage beaucoup. Vous avez le sud de la France, mais le sud de la France, il est un petit peu embouteillé en ce moment, vu que le soleil est resté là-bas, il est pas remonté chez nous. Et je parlais avec un ami qui est camping-cariste et qui me disait hier que lui, son plaisir avant tout, c'est d'essayer de trouver un endroit où ils sont simplement un ou deux camping-caristes dans des villages un petit peu reculés où les gens n'y vont pas forcément, parce qu'il dit il y a tellement de belles choses à voir que le camping-car leur permet quand même de prendre le temps de voyager.
C'est vrai, mais comme le disait Nicolas, c'est de plus en plus compliqué de stationner avec un camping-car aujourd'hui.
C'est ça, alors je rebondis là-dessus, c'est que maintenant il y a beaucoup de choses qui existent, c'est entre autres des partenariat, alors le mot est un peu fort. Vous avez beaucoup, par exemple, de fermes de vente à la ferme, de vente locale, qui mettent en place des stationnements pour ce genre de véhicules, parce que ils profitent de la situation et ils ont bien raison. Et en fait, vous avez par exemple France Passion, qui est un réseau de collaborateurs, voilà, national, qui se sont regroupés. Vous avez un bouquin avec toute la liste par département, et vous avez les gens qui accueillent gratuitement. Alors évidemment, en échange, l'intérêt, c'est de vendre quelques produits, mais ça permet de découvrir le local et de faire vivre tout le monde, quoi. En fait, c'est ça l'idée, hein, c'est que ça, et de stationner tranquillement, parce que comme vous le disiez, tout ce qui est bord de mer, on y arrive encore, mais ça devient compliqué, ou payant. Les centres-villes, voilà, c'est pareil, il y a beaucoup de restrictions. Donc voilà, ça permet de faire jouer le côté local, que les gens vendent leurs produits, de faire découvrir leurs produits. Donc tout ça tourne un peu en rond, mais l'idée est bonne, quoi. C'est vrai que ça permet de faire vivre tout le monde, quoi.
François, vous pensiez acheter un camping-car, vous ?
Ah, je pensais en acheter un. Je sais pas si je le ferai un jour, parce que j'ai aussi un principe, c'est que je pense à madame. Et je pars du principe que lorsque je sors avec madame, lorsqu'on va quelque part, eh bien, elle ne doit pas avoir de vaisselle à faire, elle n'a pas de cuisine à faire, et elle doit être dorlotée. Et il suffit de partir un petit peu moins longtemps, mais il y a les hôtels, les restaurants, et puis pendant ce temps-là, on peut profiter tous les deux pleinement des loisirs et du plaisir.
Oui, ça, l'usage n'est pas du tout normal, bien entendu. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est un choix. Après,
vous pouvez aussi faire la vaisselle et la cuisine, François. Hein, ça,
oui, je le fais très bien aussi. Je le fais très bien. Et je vois que Nicolas est un très bon commercial parce qu'il rebondit à chaque fois pour dire mais oui, mais c'est quand même bien mon camping-car. C'est formidable. Mais il a raison.
Il a raison parce que c'est vrai que la location, on sent bien que c'est dans l'air du temps. Quoi.
Voilà, c'est dans l'air
du temps. Parce que les camping-cars, ça coûte quand même jusqu'à 60 000 euros. Donc,
voilà. C'est préférable de faire des petites locations comme ça, parce que souvent le problème après c'est surtout l'hivernage, l'assurance toute l'année, et c'est vrai que le système que propose Nicolas est formidable, c'est-à-dire
on a
que...
on a des clients qui sont revenus en arrière, qui étaient possesseurs de camping-cars, qui l'ont vendu, et qui souhaitent faire des locations parce qu'ils n'ont pas le temps d'en profiter en fait, donc ils partent 2-3 semaines, et ça leur évite l'assurance, le stockage, l'hivernage, les frais de contrôle technique, tout ce que vous pouvez imaginer quoi, et qui augmente, et voilà. Donc
TTC, voilà, TTC. Merci Nicolas. Merci, merci et merci à vous François.
Eh bien, il n'y a pas de problème.
Et je vous souhaite de belles vacances. Vous allez en Bretagne.
Vous aussi, bon courage à vous.
Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.
Bon allez, Christelle.
Oui.
J'ai retrouvé la chanson dont vous nous parliez il y a quelques instants. Je ne la connaissais pas, Respire encore.
C'est la vie qui reprend, vous voyez.
C'est vrai. Vous savez, à force de travailler à longueur d'année avec Pascal Praud, les années 70, je connais que ça maintenant.
C'est vrai qu'elle a un parfum vintage, Cara Luciani. C'est ce qui fait son charme, ça doit être ça.
C'est hyper bien, en tout cas.
Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Elisabeth pour parler de l'Euro et des Italiens qui sont champions.
Jusqu'à 14h, les auditeurs ont la parole. Avec Christelle Rebière. Plus de 170 magasins en France. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Rebière.
Parlons football avec la Squadra Azzurra qui a donc été championne d'Europe, sacrée championne d'Europe hier soir à l'issue de la séquence des tirs au but face aux Anglais. Les Italiens sont rentrés triomphants à Rome, vous imaginez le délire. Et ça vous réjouit, Elisabeth. Bonjour, Elisabeth.
Beaucoup, j'ai passé une très bonne soirée, alors pas avant parce que j'étais stressée. Je ne connais rien dans le football, je vous préviens tout de suite. Mais j'ai quand même regardé, enfin regardé le match. Mais alors j'étais stressée parce que quand je voyais 1-1, je me disais c'est pas possible. Bon, et alors je trouve que c'est l'horreur quand c'est les pénaltys. J'y connais rien.
Ah oui, non, mais c'est vrai.
Les pénaltys, c'est l'horreur.
C'est vrai.
Et puis j'étais pour les Italiens.
Mais alors pourquoi? Pourquoi cette passion pour les Italiens?
Parce que d'abord, j'ai mes grands-parents, mes grands-parents étaient napolitains et florentins. Bon, je ne parle pas italien du tout. Bon, mais il faut avouer que les Italiens, même si on n'a pas de sang italien, ils sont extra, ils sont super, c'est la bonne humeur, comme avait dit chez Cocteau, je ne sais plus qui avait dit, c'est un Français de bonne humeur. Bon, et puis en plus, vous les voyez, et là, j'avais écouté Pascal Praud lorsqu'il avait parlé de l'hymne italien chanté par les joueurs. Quand vous voyez ça, vous êtes transporté, vous voyez l'unité d'un pays, donc vous pouvez être que pour eux.
On entend justement l'hymne italien.
Ah, c'est extra.
Merci Elisabeth, merci d'avoir soutenu avec ferveur l'Italie. Merci, à bientôt.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir. Et on va accueillir Evelyne qui nous appelle de Perpignan pour finir. Bonjour Evelyne.
Bonjour Christelle. Bonjour. Allez, je souhaite déjà bonnes vacances à Monsieur Praud.
Oui, je crois qu'il va bien là. Hein. Il est en bord de mer, il se repose.
Super, il a raison. J'espère qu'il est dans le midi parce que dans le nord c'est une catastrophe.
Non, je crois qu'il est plutôt sur la façade atlantique d'après mes informations. Alors, donc, vous vouliez nous parler de votre chanson de l'été?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vieux, hein, puisque j'ai 70 ans, j'avais 17 ans. Mes vacances en camping avec mes parents, avec mes parents, c'était à Saint-Jean-de-Mont en Vendée.
Oui.
Et c'est l'année où j'ai connu mon premier flirt, enfin, mon premier amoureux de vacances. C'est pour ça que je m'en souviens. Et à cette période-là, il y avait une chanson de François de Guel que malheureusement, il y a plein de gens qui ne savent même plus qui c'est. Et pourtant, quel chanteur. Mmh. Et il chantait « Il y a le ciel, le soleil et la mer ». Il y a le ciel, le soleil et la mer, allongé. Voilà, c'est ça, exactement.
Voilà, on le laisse chanter un petit peu.
Oui, tout à fait.
Sur la plage, les cheveux, dans les yeux,
et le nez, dans le sable. On est bien, tous les deux.
C'est l'été. Les vacances,
Quelle chance, il y a le ciel, le soleil,
le soleil,
il y a le ciel,
cabane est en blanche.
Evelyne, est-ce que c'est votre plus beau souvenir de vacances?
Ah oui. On était partis pendant un mois avec mes parents, mes frères. Ah oui. Bon, c'est vrai que c'était l'innocence en fait. L'innocence, la joie de vivre, le camping avec les parents. Puis c'était la tente canadienne, hein, c'était la vraie tente canadienne. Ah oui, non, c'était vraiment de très 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 belles vacances, j'avoue. Et puis bon, premier amoureux, pendant un mois, on s'est pas quitté. On s'est connus le premier jour, hein, heureusement d'ailleurs. On s'est connus le premier
c'était
jour.
C'était le coup de foudre. Et ce jeune homme, vous savez ce qu'il est devenu?
Alors, il était étranger, il était allemand, en fait. Il était allemand, et ils avaient loué la ferme. En fait, on campait dans le jardin de la ferme qu'ils avaient loué. Donc, on s'est connus comme ça, les parents pourtant aisés, hein, mais ils adoraient venir en France. Et ils avaient loué donc la ferme, une partie de la ferme, et ils étaient là. Et ce jeune homme avait 3 ans de plus que moi, et beau comme un dieu, bien sûr. Et on s'est connus pratiquement le lendemain de notre arrivée.
Coup de foudre.
Oh, bien sûr, perdu de vue, hein, on n'avait pas le portable.
Peu importe, c'est le moment qui compte et le souvenir qui nous reste.
Ouais, ça a été passionnel.
Merci de nous l'avoir si bien raconté, Evelyne.
Voilà, merci.
Restez avec nous. Grégory, d'habitude, vous avez quelque chose pour nos auditeurs.
Ah bah, on peut vous offrir une montre, Evelyne.
Evelyne. Bah
oui. Pour ce magnifique souvenir.
Une montre RTL pour votre été 2021.
Vous avez remonté le temps, on vous laisse regarder le temps qui passe grâce à cette montre.
Oui, absolument.
vous avez bien fait de nous appeler. Et merci parce que c'était très émouvant, votre histoire. Merci, Evelyne.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.